Avant l'orage, une émission féministe de découverte littéraire. Et pas que. Bonjour, bienvenue dans Avant l'orage. Aujourd'hui, je suis avec Clara. Bonjour Clara.
Salut.
T'étais venue déjà parler dans Avant l'orage, dans notre livre Lettres aux jeunes poétesses.
Oui.
Et aujourd'hui, tu viens nous en parler d'un nouveau. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi ?
Ouais, et ben je reviens avec de la poésie contemporaine révolutionnaire. Je reviens avec Fiévreuse plébéienne de Élodie Petit, alias Gorge Bataille. Voilà, des éditions du commun.
Gorge Bataille, c'est son autre nom ?
Gorge Bataille, ouais, c'est son pseudonyme, du coup, de nom de scène et tout. Et voilà, je vais vous en parler, mais Élodie Petit, c'est un sacré phénomène qui fait tout un tas de choses. Et voilà, et du coup, j'ai choisi ce livre qui est un recueil de poésie, un essai poético, érotico, queer, révolutionnaire, punk. Voilà.
Waouh, sacré programme. Tu nous disais Élodie Petit, et peut-être qu'on peut commencer par là en la présentant.
Ouais, grave. En fait, moi, c'est trop drôle parce que je savais que Élodie Petit, ce nom me disait quelque chose quand j'ai vu le livre dans la Bibli Les Lunes et Les Lins, mais en fait, j'avais pas capté direct que c'était donc Gorge Bataille. Et Gorge Bataille, en fait, c'est du coup une performeuse, une poétesse queer, une plasticienne aussi. Et moi, je la connais du coup du collectif RERQ, dont j'avais justement parlé parce que c'est un des collectifs qu'on retrouve dans Lettres aux jeunes poétesses. Donc RERQ, c'est là où il y a Rebecca Chaillon, où il y a Wendy Delorme, tout ça. Et donc elle, en fait, à la base, elle a fait les Beaux-Arts à Lyon. Elle était beaucoup dans des milieux alternatifs, militants, et elle a très vite monté avec une autre un fanzine queer et punk qui s'appelait Les Éditions Douteuses. Et il y a eu du coup une anthologie des Éditions Douteuses qui a été publiée. Elle a fait beaucoup de perf avec Marie Mion, tout ça, et elle a intégré RERQ. Et donc du coup, la Fiévreuse plébéienne, c'est vraiment sa langue à elle, son écriture à elle, son expérimentation aussi qu'elle fait autour de ce qu'elle appelle la langue bâtarde. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup, dans cet ouvrage, enfin dans cet essai, elle va à la fois expériencer, parce que c'est vraiment très expérientiel, donc elle va expérimenter à la fois une typographie non-binaire qui est proposée par Bye Bye Binary, et donc elle va féminiser la langue et elle va donc utiliser ce qu'elle appelle la langue bâtarde. Donc je vous en dirai un peu plus après, il y a un manifeste de la langue bâtarde dans l'ouvrage, et donc c'est vraiment une écriture, on dit qu'elle dérange, qu'elle subvertit les structures de pouvoir et la domination patriarcale, et c'est vraiment ça, c'est vraiment une écriture qui va perturber tant par son aspect esthétique, visuel, parce que c'est vraiment une typographie, donc une nouvelle écriture aussi dans sa manière de se fabriquer, quoi, que dans ce qu'elle nous raconte, quoi. Voilà, comment est-ce qu'elle raconte les choses, comment est-ce qu'elle utilise la grammaire et tout ça, et la syntaxe, enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Donc voilà. Donc Élodie Petit.
Typographie non binaire, ça veut dire quoi ?
Bah du coup, par exemple, je prends le livre au pif à un endroit et tu vois, tu vas avoir Éle qui va être écrit avec une sorte de U qui est genre flouté dans le X, tu vois. Et donc du coup, ça veut dire qu'on va créer des nouvelles lettres pour être dans l'inclusivité. Et donc c'est Bye Bye Binary, ils sont vraiment connus pour ça, pour avoir vraiment créé une nouvelle langue, tu vois, une nouvelle langue et une nouvelle écriture surtout, une nouvelle graphie, avec du coup plein de mots qui sont soit des mots qui sortent de la binarité, soit des pronoms qui vont être du coup neutres et qui vont être inclusifs par la graphie, tu vois. Donc c'est hyper joli, des fois c'est perturbant, tu vois, t'as des lettres qui s'envolent,
ouais,
t'as
des lettres... Il faut inventer comment les prononcer.
C'est ça,
aussi.
C'est des lettres qui se floutent, c'est des lettres qui s'agrippent les unes aux autres, c'est trop chouette, quoi. Enfin, c'est ça aussi, la littérature, c'est aussi comment tu réinventes l'écriture, et c'est trop chouette.
Trop bien.
Donc, tu vois, la maison d'édition, je trouve, elle parle genre vraiment bien de Fiévreuse Plébéienne. Donc, c'est les éditions du commun que je sais que tu adores aussi, Colline, parce qu'il y a notamment Corps de ferme, il y a notamment y a L'odeur des pierres mouillées, de Léa Rivière. Enfin, il y en a pas mal qui sont édités chez les éditions du commun. C'est hyper chouette. C'est des ouvrages qui sont quand même accessibles à 12 euros. C'est une jolie édition. Enfin, et donc, voilà. Donc, comment elle parle de Fiévreuse Plébéienne, c'est en introduisant sur quelques mots en fait, qui viennent du livre. On habite ce que l'on peut, la faïence, la baignoire, le HLM, le trottoir, on construit une cabane. Du début à la fin, on utilise l'amour comme survie collective. Et donc c'est vraiment un texte qui va interroger la façon d'habiter son corps, le monde, ses désirs. Ça va parler d'amour, de précarité, de joie punk et émo, de sexualité. Et ça va mêler directement le corps aux politiques. Ça prône au effort l'expérimentation et la satire. Ça précise une volonté très forte de faire la révolution. Et en fait, comme je te disais, Élodie Petit va du coup utiliser et révéler la langue bâtarde, qui est donc une littérature prolétaire, proche du réel, expérientielle, menaçante et gouine. Et ça rappelle que l'écriture, elle peut être et elle est à la base libre et infiniment libre. Voilà, c'est vraiment un livre de poésie, mais c'est aussi une recherche sur l'écriture qui se veut une écriture de l'expérience intime, une écriture sexuelle aussi, clairement, parce qu'à un moment donné, c'est aussi ça, c'est aussi une liberté par rapport à ça. Mais c'est pas que ça, tu vois. À un moment, je pense qu'on aurait pu classifier ce livre comme un essai poétique, érotico, poétique queer, tu vois, mais c'est vraiment pas que érotique, c'est vraiment très politique. Et puis voilà, il y a quand même du récit, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant, ça nous raconte quelque chose, quoi.
Est-ce que tu veux nous en lire un extrait ?
Ouais, carrément, avec plaisir. Ce qu'on sait que l'on n'a pas. On n'a pas de maison ou de propriété, des endroits où recevoir et des lieux remplis de souvenirs sur des générations. On n'a pas de grenier avec des surprises à trouver, des journaux intimes du siècle dernier, des objets anciens, une odeur singulière qui nous rappelle l'enfance, la nôtre et celle de notre mère et celle de sa mère. On n'a pas d'espace où stocker nos mémoires, pas de murs qui restent et contiennent les traces du passé. On déserte les appartements loués dans lesquels se sont accumulées 60 années passées et tant de souvenirs et de décors, de photos. Il faut tout vider, remplir les Emmaüs où viendront chiner les bourgeoises parce qu'on ne peut rien garder, parce qu'on habite des surfaces trop petites, des lieux sans comble, parce qu'on est propriétaire de rien à part de nos souvenirs, et alors comment on les garde ? La conservation, on doit l'inventer et oralement faire perdurer les histoires qui nous appartiennent et là d'où on vient. Notre recul est récent, notre vision proche du présent, dans ce que l'on perd toujours du passé. On meurt avec nos secrets et on lâche nos économies aux vivants, vivantes. Le capital d'une vie à pas trop dépenser et à faire attention, se contenter de peu, de pas partir souvent en vacances, aimer les choses simples. Et tu vois, je t'ai choisi un extrait ultra soft, mais aussi ultra soft dans la langue bâtarde, parce qu'il y a aussi des moments comme ça qui sont hyper intimes, qui sont des confessions, et qui sont aussi révolutionnaires dans cette douceur, tu vois. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans le trash et une certaine forme de violence, tu vois, pour faire révolution dans la langue et dans ce que tu es en train de raconter. Et c'est ça que j'aime aussi chez Élodie Petit, c'est qu'il y a tout ça qui coexiste dans le même livre, quoi.
Mmh. Ouais, il est beau cet extrait. Ça raconte, la perte d'un endroit particulier.
Ouais, et puis ça raconte comment, quand t'es prolo et que t'as pas les moyens d'avoir des caves pour stocker, d'avoir des garages et tout ça, tu peux pas garder les souvenirs et que t'aimerais parfois aussi pouvoir constituer une sorte de, je sais pas, de patrimoine, d'héritage comme ça sur des générations. Mais non, du coup, tu racontes ça de manière orale ou tu gardes un livre ou deux et un petit vase. Enfin, ça raconte aussi ça sur notre société matérialiste, consumériste, capitaliste, que nous, forcément, on doit faire autrement, tu vois. On doit aussi inventer nos propres codes de transmission, quoi.
Et le livre, il devient un moyen de conserver aussi cette mémoire.
Ah, carrément, carrément. Mmh.
Tu veux nous en lire un autre extrait qui serait plus révolutionnaire du point de vue de la langue ?
Ouais, si tu veux. Plus... Ben, déjà, pour raconter juste une petite anecdote, c'est hyper drôle parce que ça commence, du coup, le livre, vraiment, je pense, dès la première page, sur, en fait, un... C'est des dialogues, en fait, entre plusieurs personnages qui sont convoqués. Et alors, au début, t'as Antonin Artaud, t'as Bébé, donc tu sais pas trop qui sont ces personnages. C'est des personnes qui, apparemment, tentent de s'aimer malgré l'anxiété générale et la présence des autres. Donc, t'expliques ça. Il y a des petites notes, tu sais, comme dans des écrits de théâtre. Et puis, très rapidement, tu reconnais des personnages. Il y a Bébé, mais Bébé en lien avec Johnny. Donc, tu te dis, ah, c'est une réécriture de Grise, tu vois. Et en fait, il y a des passages comme ça qui font penser à des références populaires, d'autres références qui sont hyper féministes ou queer. Donc certains, ça va être René Vivien, ça va être Michel Foucault, féminisé, du coup Michel Le Foucault. Et c'est hyper drôle parce que du coup, ces personnages, tu les suis pendant un moment, et c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre, c'est que t'as plein de fils qui sont tissés, plein d'histoires comme ça qui sont tissées. C'est pas qu'ils sont abandonnés, c'est qu'ils sont tous conservés en même temps. Du coup, des fois, c'est perturbant. Et en ça, ça peut être difficile à lire, mais c'est hyper intéressant aussi parce que du coup, ça s'amuse, quoi. C'est profondément amusant, tu vois. Alors, à un moment, tu as deux manifestes que je voudrais te citer. Tu as un manifeste qui est page 29, qui est le manifeste des poètes vivantes. Donc, concrètement, vu qu'on est dans une radio en milieu scolaire, il faut brûler les écoles, ils vous apprennent à bien écrire, c'est une façon de vous empêcher d'écrire ce que vous voulez. Voilà. Donc, le manifeste des poètes vivantes, c'est plusieurs points, c'est 14 points précisément, notamment, il faut se souvenir que tout est toujours emprunté aux autres, l'autofiction est une oxymore qui exagère et met en exergue ce qui a toujours été la littérature ou l'art, est expérimental ce qui questionne ou dérange la forme narrative traditionnelle afin d'actionner la lectrice. On s'en fout de l'histoire tant qu'il y a du sensible. La poésie est l'affaire de tous. Les genres se mélangent allègrement ou encore aiment sincèrement et totalement et ne cèdent pas à la peur. Et puis ce fameux manifeste de la langue bâtarde qui arrive à la moitié du livre, page 66, avec des pages qui sont teintées de noir pour que ce soit vraiment, qu'on puisse le reconnaître. La langue bâtarde est le fruit névrosé de l'accouplement d'une langue littéraire ténue avec un langage de rue, un argot rural, une langue de trottoir, un dialogue vide de repas de famille. Elle est vulgaire dans le sens où elle ne se soucie pas de sa réception, elle l'est. Elle parle trop fort, elle ne s'arrime pas là où il faut, elle se contrefout des règles, elle s'en vante au fur et à mesure qu'elle raconte. Elle rappe, elle écorche, sa poésie naît du trouble, du mélange, du choc. Elle met en lumière les dysfonctionnements sociétaux d'une langue normée, autoritaire, institutionnelle. Elle est le diable, elle est incorrecte. Elle boit trop, elle féminise tout, elle aime s'entourer d'autres bâtardes, elle mouille sa culotte, elle trempe la tienne, elle bouffe à tous les râteliers, elle est féministe et la ramène des qu'il y a du grabuge, elle est chiante et trouble faite. Bref, il y a plein de choses comme ça. Elle a un problème avec la drogue, elle n'en a jamais assez, elle en veut toujours plus. Et c'est aussi ça, c'est que voilà, tu sens que cette langue, elle est remplie de névrose, tu vois. Et quand on parle là de, voilà, il y a de la drogue, il y a de la sexualité dans cette langue, c'est important aussi de le dire, c'est que ça, des fois, ça perturbe et ça dérange parce que du coup, ça va être une langue qui va être assez trash et en même temps, du coup, ça va nous amener dans des recoins un peu sombres où on n'a pas envie d'aller, qui sont hyper intimes et qui, du coup, je trouve ça hyper précieux aussi que la littérature parfois nous fasse vivre ça. Et voilà, donc c'est une langue un peu vilaine, mais qui, du coup, nous amène dans des voies nouvelles, quoi.
On avait un fil, j'ai l'impression que tu as déjà répondu aux questions avec l'idée de faire un coup de cœur, un caillou dans la chaussure et un écho avec ta propre vie. On peut partir là-dessus ?
Carrément, bah, caillou dans la chaussure, tu vois, c'est un peu ce que je te dis, c'est que du coup, au début, c'est vraiment genre un peu difficile à lire. Moi, je sais que plusieurs fois, j'ai emprunté le livre, du coup, les 2 mois complets à la Bibli, Les Lins, Les Lunes, parce que vraiment, il m'a fallu 2 mois pour le lire, alors que c'est un petit livre, hein, il fait genre 100 pages. Mais le truc, c'est qu'au début, il faut s'accrocher parce que, comme je te dis, il y a plein de fils qui sont tirés, il y a plein de petits bouts narratifs comme ça. Et en même temps, je pense pense qu'il faut se laisser porter. Et c'est aussi OK de lire le livre sur plusieurs temps, tu vois, parce qu'il n'y a pas forcément... tu vas pas, si tu as oublié ce que tu as lu avant, c'est pas très grave. Et du coup, quand tu passes outre ça, tu as aussi tout le truc, voilà, ça reste trash, etc. Donc tu te dis, c'est pas non plus accessible à tout le monde. Et en même temps, je trouve ça hyper précieux parce que ça montre aussi... tout ce que ça fait, la littérature queer, poétique, contemporaine, c'est aussi de ramener plein de personnes autour d'un livre. Parce que tu vois, moi, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé. On avait commencé à lire des extraits. Comme toi, au début, je ne l'avais pas lu, mais j'avais lu plein d'extraits. Donc, j'avais l'impression de l'avoir lu. Puis, j'ai envie de le transmettre à mon tour parce que c'est quand même un livre hyper, hyper précieux et hyper révolutionnaire pour la langue et pour la poésie contemporaine. Et du coup... j'aime, tu vois, toutes ces difficultés là où elles m'ont menée, tu vois, elles m'ont menée à en parler, à débattre, à partager cette langue bâtarde avec plein de gens et à questionner aussi ma propre langue dans ma propre écriture. Et du coup, c'est chouette, finalement, ce cahier dans la chaussure.
On aime les cahiers dans la chaussure.
Oui.
Et pour l'écho avec ta propre vie, tu disais que ça t'avait inspiré pour animer tes ateliers d'écriture.
Ouais, grave. En fait, j'ai carrément créé... j'étais encore en train de le lire, j'avais pas fini. Et puis j'ai créé un atelier, du coup, qui s'appelle un atelier d'écriture en novembre, que j'ai donné sur le thème métamorphose et révolution. Et du coup, je suis vraiment partie sur plein de références politiques, comme de l'utilité des rebelles, Résister de Salomé Saké, Les guerrières de Monique Wittig, ou encore Manifeste pour une démocratie déviante, Amour queer face au fascisme, ou encore Politiser le bien-être de Camille Teste. Enfin voilà, je suis partie sur des références comme ça, qui sont clairement des références que Élodie Petit doit avoir sûrement, tu vois, dans un bout de sa bibliothèque. Et en fait, ça m'a donné envie, tu vois, de faire... davantage la révolution encore avec les mots et avec le collectif, tu vois, avec l'idée de se rassembler autour d'une langue, qu'elle soit la langue bâtarde ou qu'elle soit notre propre langue, tu vois, et de déconstruire ensemble ce qu'on écrit, de construire ensemble un nouveau récit, des nouveaux imaginaires aussi qui nous correspondent plus, et de témoigner en fait aussi de nos métamorphoses et de nos vies, d'une manière aussi parfois qui peut être trash, d'une manière aussi parfois qui peut être pas jolie, tu vois, parce qu'on a l'habitude d'associer la poésie à des trucs jolis, alors que des fois c'est vraiment des postillons la poésie, c'est pas forcément joli, quoi, ça crache, quoi. Et du coup, ça m'a convaincue dans cette intuition que j'avais, tu vois, de ce que la poésie contemporaine, elle peut être, de cette puissance-là, et de ce que la poésie queer, elle peut être, et comment elle peut rassembler, et comment elle peut parler à tout le monde, en fait, et pas que à des personnes queer d'un microcosme, tout ça, tu vois. Donc, ouais, ça m'a grave inspirée. Après, là, je suis chaud, je vais monter une revue et tout, hyper woke, queer. Ce sera la cantine populaire. Restez connectés.
Ça s'appellera comment, ta revue ?
Alors, pour l'instant, on est sur le wokistan queer ou le queeristan woke, tu vois, c'est pas très déterminé, je suis assez nulle pour les titres, alors je verrai ça en collectif avec des gens qui auront des meilleures idées que moi.
Dans Avant l'orage, je propose de trouver une musique qui nous fait penser au livre. Est-ce que tu as une idée, ou tu me disais tout à l'heure que tu n'en avais pas, peut-être que tu en avais une qui t'est venue en parlant, ou alors on la trouvera plus tard?
Ouais, mais en fait, c'est trop dur, parce que je crois que j'ai réalisé que l'autre fois, j'avais dit compromat, et là, en fait, j'ai vraiment juste envie de mettre des musiques de Rebecca Warrior, mais il faut peut-être que je trouve, parce qu'il y a tellement d'autres choses. Donc, je pense que je vais trouver une meilleure idée, et tu la rajouteras au montage, c'est OK?
Oui, carrément. Après, moi, je suis contente si on met Rebecca Warrior.
Il y aura sûrement Rebecca Warrior à nouveau, mais je vais voir si je trouve autre chose.
Salut, c'est Clara du futur. J'avais envie de mettre du punk rock avec Dreamwave. J'avais envie de mettre Groovy Jungle de Sam Quilly ou encore Boutical de Yoa. Mais finalement, j'ai décidé de vous mettre Love l'artère de Paloma, notre chère Paloma qui nous amène dans un univers fric, dans un univers amoureux, dans un univers aussi trash et puis ensorcelant. Donc voilà, je vous laisse avec Love, l'artère de Paloma, très visuel et très enivrant.
Est-ce que tu veux nous relire un extrait ou rajouter quelque chose?
Ouais, franchement, avec plaisir. Bah, du coup, j'avais pensé à te lire un bout aussi qui dise un peu plus sur cette langue. Alors, c'est page 87, du coup, c'est un dialogue entre Ethel Adnan, une poétesse, et René Vivien. Ethel Adnan dit « Tu abrites un marais, ton identité est ta prison. » René Vivien lui répond « Je l'ai vue traîner autour de toi, silencieuse, elle flirtait avec ton vide, l'inconsistance de la fête, son visage enfantin qu'on voulait baiser. Elle cherchait la mort, ses cheveux tirés en arrière, de son front réclamaient tes lèvres. Tu ne faisais rien, passais proche dans le jeu qu'elle initiait. Elle marquait ton âme, ton désir en flamme, ta main loin de ses crues. » Et Talana lui répond « Le magma recouvrait la nuit dans l'inertie de leur sommeil, les souffles courts et insolents, les corps lourds de leur sombre, les visages posent un temps loin de leur grimace quotidienne, folles, dégénérées de leur trottoir sale, les mains chaudes dans le fut de l'autre. Avoir des gestes tendres envers leur partenaire. » Et voilà, ça c'est un des dialogues, tu vois, que tu peux retrouver dans le livre. Et puis... on va pas se mentir, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour, vu que tu m'as demandé c'était quoi mon coup de cœur, pour la fin du livre, mais ne lisez pas que la fin. C'est genre, je pense aussi qu'il faut avoir tout lu pour que ça fasse cet effet-là, la fin, parce que du coup c'est une sorte, je trouve, de feu d'artifice, la fin. Et à partir de la page 101, à peu près, hein, ça commence avec des titres en disant, donc par exemple, l'histoire de la poésie est liée à l'histoire de la sexualité. Et là, c'est un dialogue entre Michel Foucault et Bébé qu'on retrouve du début. Ou encore, quitter l'hétérosexualité pour accéder à la littérature. Et puis, bah là, par exemple, c'est... Bébé qui nous dit « On assiste à un paysage poétique décharné et pauvre. La littérature encombrée d'hétérosexualité étale en complaisance l'enfer des relations hommes-femmes, la soumission de l'une à l'autre, le balai incessant de la souffrance. On se répète ensemble les mots du dysfonctionnement, on s'habitue à ce que la femme vomisse sa déception et sa tristesse. À quel point on entretient la violence à faire de nos récits des pansements de vie. » Et elle finit son petit paragraphe par hashtag balance ton porc.
C'est pas mal, ça montre aussi que la violence, elle n'est pas forcément là où on pense.
Exactement, exactement.
On dirait, c'est une écriture violente, mais en fait, la violence, elle peut être aussi dans une littérature bien normée qui décrit des rapports hommes-femmes violents en les décrivant comme doux ou amoureux, quoi.
Exactement, exactement. Et qui enferme, tu vois. Et je trouve que vraiment, genre, ce livre, c'est la liberté même, tu vois. C'est pas juste parce que c'est queer et gwyn et tout ça, c'est vraiment parce que c'est ce que tu dis, ça invente des nouvelles manières d'écrire, de se raconter, d'être ensemble, de s'aimer, de faire société, de vivre. Enfin, c'est hyper libre aussi dans comment des fois, peu importe d'où l'on vient, en fait, on a aussi le droit d'avoir envie de faire partie de cette famille de la littérature, tu vois.
Le titre, il est pas mal.
Ouais.
Assez, quand tu dis accéder à la littérature, sortir de l'hétérosexualité pour accéder à la littérature.
C'est ça, c'est ça.
C'est provocateur, quoi.
Bah oui, à fond. Et puis voilà, et puis c'est hyper touchant aussi, tu vois. Ça finit sur un passage aussi de Johnny qui se demande aussi plein de choses sur comment elle vit, comment elle s'appartient, comment elle vit dans le vide et dans son propre abri, le FOMO, le fear of missing out, la peur de tout manquer. Du coup, tu es là avec cette envie effrénée de faire tout en même temps pour rien louper, tu vois. Et voilà, tu vois.
C'est pas mal lié au capitalisme aussi.
Ouais, ouais.
La société de consommation.
À fond. Donc, c'est ça nous questionne vachement, ça nous parle aussi sur nos vies et je pense que on est un paquet où ça nous fera du bien de lire ce livre et ça, voilà, c'est jouissif aussi, ce genre de petit livre.
Merci, merci beaucoup, ça fait trop du bien.
Ah, trop cool, ben merci Elodie Petit, merci Gorge Bataille, franchement merci à ce genre d'autorise d'exister quoi, merci vraiment et j'aimerais juste que ce soit moins niche quoi des fois et que ça arrive entre les mains de plein de gens de manière un peu hasardeuse, donc je pense à l'acheter en d'occasion pour le mettre dans une boîte à livres improbable, tu vois, je sais pas, genre faut qu'on trouve le moyen aussi de faire tourner hors de milieux fermés, quoi.
Bah, déjà, il est à la Bibli Les Lunes,
c'est
Les Lins.
C'est clair, c'est clair.
Et on peut l'emprunter en venant à la cantine populaire. Parce que oui, depuis tout à l'heure, on a parlé de la Bibli,
ouais.
Les Lunes, on en avait parlé un peu plus longuement dans les précédents Avant l'orage. On peut les retrouver d'ailleurs sur le site www.inforc.fr dans Avant l'orage, mais peut-être qu'on peut dire quand même quelques mots sur cette bibli.
Bah ouais, une bibli du coup en autogestion, donc on est un collectif de bénévoles pour la gérer, donc on est ouvert principalement quand la cantine populaire est ouverte, bien sûr, puisque on est dedans. Mais du coup, tous les samedis, et puis on a des permanences aussi des fois, les soirées, des permanences en mixité, d'autres en non-mixité, enfin voilà. Et surtout, c'est un endroit où tu peux te poser, où tu peux adhérer de manière soit à prix libre, soit en faisant un don de libre, mais tu peux aussi juste lire sur place, en fait, quand c'est ouvert, et t'as 2 mois pour, 1 à 2 mois pour ramener le livre, donc c'est assez cool, comme c'est vraiment de l'autogestion, c'est de la responsabilité collective et individuelle. Et puis voilà, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a voulu dans la bibli changer aussi les catégories, tu vois, déélitiser certaines catégories, où parfois, tu vois, t'as les BD, les romans, la poésie, et parfois ça veut pas dire grand-chose. Et donc, on a changé toutes les catégories pour aussi que certains livres fassent moins peur, par exemple que la poésie aussi soit beaucoup plus ouverte et qu'on ait plus peur de lire de la poésie ou de lire des livres qui sont hyper engagés comme celui d'aujourd'hui. Et puis voilà, et pareil pour la BD, les romans graphiques, enfin, il y a tellement de choses dans ce genre-là qu'on ne pouvait pas juste mettre BD et tout dessous BD, ça ne veut rien dire, quoi. Donc voilà, je vous invite à venir pour aussi ne plus avoir peur de certains livres et de certains genres littéraires.
Vous pouvez venir seulement pour manger et profiter de la bibli.
Ouais, grave.
Et c'est la cantine populaire, c'est 14 rue Nationale à Aubenas.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment à côté du Dôme, quoi.
Et ce qu'on peut dire aussi pour la bibli, c'est qu'elle organise des événements. Et là, il y a un prochain événement le 24 janvier, le vendredi 24 janvier, avec Vanessa Chambard, la photographe, qui présentera son livre Bergère, un livre de photographie, qui est aussi un livre de poésie, parce que... Enfin, il y a un texte qui accompagne les images et c'est très poétique.
Mais j'ai trop hâte. L'autre fois, j'étais à la pharmacie Gambetta et j'ai eu des photos qu'elle a imprimées et qu'elle a fait en carte postale. Vous pouvez les avoir à la pharmacie Gambetta. Et c'est trop beau. Et maintenant, j'ai des moutons et Vanessa qui trônent sur mon frigo.
Et tu l'as lu, du coup, le livre
Bergère ? Non, je ne l'ai pas lu, du coup, mais j'ai vu quelques photos et j'ai trop hâte.
Il est à la librairie du Tiers-Temps.
Trop bien.
Et la rencontre, elle sera aussi à la librairie du Tiers-Temps.
J'ai trop hâte. Venez.
On dit un dernier mot, on termine là-dessus.
Bah franchement, merci à ce genre de littérature d'exister. Merci Avant l'orage, Colline, tu gères. Merci d'exister.
Merci à toi Clara, merci beaucoup.
Ciao, ciao.
Avant l'orage, une émission féministe de découverte littéraire. Et pas que.